Radio Okapi. Journal présenté par Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité: Cannes 2024 et les léopards de la RDC jouent ce soir contre les éléphants de la Côte d'Ivoire pour les demi-finales. Les vainqueurs de la rencontre se verront ouvrir les portes de la finale et auront la chance ainsi de remporter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le quartier Mugunga à l'ouest de Goma est actuellement débordé par plusieurs milliers de déplacés qui viennent de Sake dans les territoires de Masisi. Ils fuient les affrontements qui se rapprochent de la cité. Un acteur politique de la zone plaide pour un plan des contingences afin d'encadrer ces déplacés en souffrance. Notre invité, c'est le commandant de la 22e région militaire. Le général Eddy Kapend revient sur l'épidémie de choléra qui sévit actuellement au centre d'instruction de Moura dans la ville de Likassi et de la situation sécuritaire. Madame, messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, d'abord cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Augustin Kabuya est nommé informateur. Selon un communiqué officiel signé par le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo charge le secrétaire général de l'UDPS à identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, permettant ainsi la formation du gouvernement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. Cette mission lui confiée est de 30 jours renouvelable une fois. Cannes 2024, les léopards de la RDC jouent ce soir contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, un match comptant pour les demi-finales. Les vainqueurs de la rencontre se verront ainsi ouvrir les portes de la finale et auront donc une chance de remporter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici à Kinshasa, les Congolais sont convaincus de la victoire. Les Ivoiriens vivant dans la capitale congolaise espèrent eux aussi que les leurs vont gagner la coupe à la maison. Un reportage d'Alpha Mpoissa et Babel Pongomassimango.
Les Congolais croient dur comme fer en la victoire des léopards. Chacun y va de son argument.
Vu que c'est chez eux, ils vont commencer. Après, ça serait des ans.
Des ans en faveur des léopards.
Des léopards, oui.
On va battre la Côte d'Ivoire par 2-0.
Non, nous n'allons pas aller à la prolongation. Nous allons gagner. Ils viendront avec la coupe.
Côté ivoirien, après la résurrection, comme certains d'entre eux appellent leur retour dans la course, on voit grand. La coupe restera à la maison.
Ah, mais mes intentions sont claires. C'est une occasion organisée chez nous. Nous devons de la remporter. Et mon pronostic sera de 2-0.
Nous sommes des revenants. On a trop souffert. On nous dit d'être humbles maintenant.
Nous sommes très humbles, on n'en parle plus beaucoup. Mais quand on va finir là, bouche qui va sortir de nous.
Le neutre, comme cette ivoirienne, sont plutôt rares.
C'est le même style de jeu. Puis comme on dit, nous sommes les Congolais de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est en famille et que le meilleur gagne.
En prélude à cette rencontre, ils sont nombreux les supporters des deux équipes à s'afficher avec vareuses ou autres gadgets aux couleurs nationales.
À Beni, pendant ces temps, à Butembo, à Oicha, à Kassindi et à Lubero, dans la province du Nord Kivu, quelques habitants de la zone s'attendent eux aussi à la victoire des léopards. En même temps, les Ivoiriens rencontrés ce matin parlent de la qualification des éléphants, les uns et les autres se sont confiés à Grévis Salomon.
C'est Jackson Kasuku. En tout cas, j'ai confiance à mon équipe, la RDC. Je suis certain que nous allons remporter la victoire. 2-0. La montée de notre équipe.
C'est Moussa Ndouria Modeste. Je crois que mon équipe, la RDC, est bien préparée. En tout cas, aujourd'hui, on va gagner 2-1.
Patricia Cablan, je suis ivoirienne. Ben, je dis juste 1-0. Vous nous connaissez, c'est juste à la fin du match qu'on va vous gagner. La CAN, c'est chez nous, donc la coupe aussi reste chez nous. Et puis, on a notre public. C'est ça la différence entre vous et nous, en route pour la finale.
Maintenant, c'est Stan Kambale. Comme un patriote, je sais qu'aujourd'hui nous allons gagner 2-1. Nous allons gagner la Côte d'Ivoire parce que nous sommes déterminés.
Le nom c'est Mumbere Kitambala. Ensemble avec notre équipe, on va gagner 2-1. Tout marche bien.
Je suis Emmanuel Kakule. En tout cas, je suis vraiment optimiste. Nous allons gagner ce match. C'est à 2-1 en faveur de la RDC. La RDC est en train de nous faire un beau travail et nous sommes vraiment contents et nous pensons que vraiment nous allons gagner.
Je suis ivoirien. Je m'appelle Bossangessan. Je pense que
nous allions gagner le Congo, puisque le Congo, ce qui ne se souvient pas, c'est qu'il ne joue pas avec des humains, il joue avec des revenants. Nous jouons à la maison et puis vous jouez avec des revenants. Quelqu'un qui est mort, qui est réveillé, c'est difficile de jouer avec lui.
C'est 2-1 pour la Côte d'Ivoire.
Le nom, c'est Jonathan Kazungu. Selon moi, on va remporter la victoire. La victoire est dans nos mains. Selon moi, on va gagner la deuxième mi-temps. Ce sera 2-1.
Je suis Gisèle Manzan, de nationalité ivoirienne. La CAN se passe chez nous, la coupe reste chez nous. Par rapport à l'historique des rencontres RDC-Côte d'Ivoire, on a toujours battu la RDC. L'histoire continue. Donc je pense qu'aujourd'hui, les mêmes choses vont se répéter. En demi-finale, en 2015, on les a battus. Je pense que ça serait la même chose. Cette année, on ne va pas trop marquer, on va faire 1-0.
Le nom, c'est Imani David. Oui, je sais seulement que nous allons gagner, mais je ne peux pas donner préciser le nombre de buts que nous aurons, mais je sais que nous allons gagner. C'est sur base de notre équipe qui est déterminée. Aussi, la grâce de Dieu qui accompagne toujours la RDC.
Même son des cloches à Kananga, chef-lieu de la province et du Kasaï central, où quelques habitants de la ville s'expriment sur le match de ce soir entre la RDC et la Côte d'Ivoire.
En fait, nous restons optimistes avec ce match qui oppose notre pays à la Côte d'Ivoire. Personnellement, je pense qu'on va marquer juste un but seulement sur terrain. On ne va pas aller au tir au but. Un but seulement sur terrain.
Pour ces matchs d'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup plus la confiance à notre équipe. Pensons que c'est un grand match et nous ne pouvons pas vraiment minimiser la Côte d'Ivoire qui est aussi une grande équipe et nous préférons que la meilleure équipe puisse l'emporter. Merci.
Nous serons en face des matchs très importants. Avec l'ossature de l'équipe que nous avons, nous sommes sûrs que nous serons en finale face à la Côte d'Ivoire. Nous pensons que nous allons gagner ces matchs par un score de 2-1.
Nous restons très sereins concernant les matchs qui vont se passer entre la Côte d'Ivoire et notre pays. Et l'ADC va remporter sur un score de 3-2. Et nous attendons vraiment impatiemment ces matchs.
Notez que le succès des Léopards de la RDC aura évidemment un impact sur la vente des vareuses de l'équipe nationale. La demande est en hausse actuellement. Les vendeurs affirment que les produits originaux sont devenus rares. Conséquence, leur prix a également augmenté. C'est ce que nous expliquent Alpha Mpoissa et Babel Mpongo Masimango.
Patrick, 17 ans, est venu au marché Gambela pour s'acheter une vareuse de léopard à porter ce soir.
Je suis juste venu me renseigner d'abord pour savoir si c'est à combien.
Qu'est-ce qui vous intéresse ici?
Celle qui a les lignes là comme ça, des honnelles.
La vente de vareuses de l'équipe nationale est florissante depuis les débuts de la CAN, nous dit Séraphin Beaubois, 23 ans, qui les expose sur son étalage.
Ces jours-ci, les vareuses des léopards sont en vogue. La demande est tellement forte, mais la marchandise, elle, commence à se faire rare. Nous en vendons plusieurs quotidiennement depuis le début de la CAN. Leur prix est en hausse d'ailleurs. Elle coûtait 25$ avant. Actuellement, le prix varie entre 35 et 45$. Si nous allons en finale, cela coûtera encore plus.
À côté de cela, il y a une autre qualité un peu moins chère qui fait aussi le bonheur des fanatiques des léopards.
Les originaux sont finis. Ils coûtent aussi cher, 25$ le prix des gros. À combien je vais revendre? Beaucoup de clients se battent sur cette autre qualité de 10 ou 15$ l'ensemble. Comme c'est aux couleurs du pays, cela se vend très très bien.
Leur souhait à tous, vendeurs comme acheteurs, est de voir l'équipe nationale remporter cette CAN.
Dans un autre chapitre, le quartier Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma au nord Kivu, est actuellement débordé par des centaines de déplacés qui viennent de la cité de Sake dans les territoires de Masisi. Ils disent fuir les affrontements qui se rapprochent de leur cité. Ils viennent de Chacha, Kirutye, Mushaki, Kichanga, Ngungu, Karuba et les environs. John Ishara Butaragaza, un acteur politique de la zone, plaide pour un plan de contingence afin d'encadrer ces déplacés en souffrance. Il le dit à Denis Lukesu.
Vu la situation sécuritaire de la ville de Goma, nous pensons que ce mouvement nécessiterait une surveillance importante, mais également on devrait vite passer à un plan de contingence. Le plan de contingence devrait être étalé à deux axes. Le premier axe, c'est l'encadrement, l'orientation de déplacés. C'est-à-dire, ce sont des Congolais qui sont dans leur pays et ils doivent se sentir très à l'aise, accueillis par les autorités de leur pays. Et ça, ça ne se fait pas voir et c'est très dommage. Le deuxième axe sur lequel ces plans devraient se concentrer, dans des situations de guerre comme ça, c'est dans ces mêmes mouvements que souvent l'ennemi infiltre les grandes agglomérations. Normalement, on devrait avoir la porte d'entrée où on devrait avoir le temps de savoir ils entrent avec quoi, ils sont qui, pour bien les orienter. J'ai craint que par absence de ces plans de contingence, que les autorités soient en train de mettre de plus en plus la ville de Goma dans une insécurité et en danger.
Restons à Goma où deux nouvelles bombes sont tombées ce mercredi. La première bombe est tombée ce matin non loin de l'école du cinquantenaire dans le quartier Mugunga et la deuxième cette mi-journée dans un terrain à proximité d'une université locale. C'est la troisième bombe larguée en l'espace de 5 jours au nord-ouest de la ville de Goma. Le bilan qui a été dressé par un membre de la société civile fait état de la destruction systématique d'une maison en planche. Du coup, cet incident a créé la psychose dans la zone. Les services de sécurité sont déjà déployés sur les lieux pour identifier l'origine de cette bombe. Espoir Ninganda s'est confié à Bernardine Diambou.
Oui, c'est confirmé ce matin ici, du mercredi à 6h30, qu'une bombe encore vient d'être lancée, faisant quelques dégâts matériels. Dieu aidant, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Ce que pouvons déjà demander aux autorités militaires, c'est de voir dans quelle manière, si nous trouvons que quand même la guerre ne nous fera pas grâce, ne nous fera pas de la solution, pourquoi ne pas passer directement dans des dialogues? Mais c'est vrai, comme on a toujours dit, qu'on n'a jamais négocié avec les terroristes, oui, mais cherchons quel mécanisme faire que les autorités nous disent fermement, parce que ce n'est pas 10 jours au lendemain que nous pouvons entrer de voir comment est-ce que nos nôtres sont en train de perdre leur vie, qu'ils nous disent fermement que non, il y a des mécanismes qu'on peut aussi aménager, dire que non, la population pouvait d'abord dégager, enfin voir comment est-ce que vous allez battre l'ennemi.
Nord Kivu, encore la situation humanitaire s'aggrave avec l'avancée des rebelles du M23 autour de la cité de Sake, située à environ 27 km au sud-ouest de la ville de Goma, groupement de Kamuronza, chefferie de Bahoundé, territoire de Masisi. Cette situation inquiète les acteurs locaux et les chefs coutumiers et qui appellent à l'aide de nombreux ménages qui sont restés sans assistance depuis plus de 4 mois. À Goma, explication de Gabriel Ouamenia.
Les paysages humanitaires restent précaires dans la cité de Sake avec l'arrivée des nouveaux déplacés il y a 4 jours. Ils n'ont ni nourriture ni eau. Ces milliers de familles déplacées sont venues des agglomérations de Chacha, Kiroche, Mwambaliro, Buhunga, Kivuta et environ. Les acteurs locaux affirment qu'ils vivent péniblement depuis leur arrivée à Sake il y a 4 mois pour les uns et plus d'une semaine pour les autres. Nos sources à Sake affirment que suite aux mauvaises conditions de vie, les maladies diarrhéiques touchent déjà un bon nombre de déplacés qui sont pris en charge tant soit peu par l'ONG MSF. Par ailleurs, les détonations de 6 bombes larguées par les rebelles ce mardi matin dans la cité de Sake font état d'un enfant blessé. Les mêmes détonations ont provoqué encore une fois un nouveau mouvement de déplacement des populations qui s'est déversé depuis ce matin dans la ville de Goma. Cette situation impacte aussi négativement sur le bon fonctionnement des écoles qui restent fermées depuis 8 jours maintenant. Ces acteurs locaux demandent aux autorités de protéger la cité de Sake qui reste le dernier verrou au sud avant d'atteindre la ville de Goma. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Des sources administratives affirment que les FARDC ont bombardé les positions des rebelles du M23 RDF sur leur colline. Toutefois, quelques tirs isolés à l'arme légère tirés par les M23 ont été entendus cet après-midi à Sake. Le porte-parole des FARDC dans la région rassure la population et appelle au calme. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko s'est confié à Denise Lokesso.
Les commandants de la 34e région militaire et commandant des opérations au Nord Kivu informe la population de sa juridiction que les forces loyalistes s'activent en ce moment à déjouer les attaques simultanées lancées ce même jour par les terroristes de l'armée rwandaise sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo se trouvant en profondeur de la cité de Sake. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme et la rassure de leur farouche détermination de la défendre et sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays.
Allons maintenant au Sud Kivu où le PDDRCS et ses principaux partenaires ont retiré 256 enfants des groupes armés Raia Mutomboki à Kirikou, à Moïse Chaba et Makofi opérant à Tamba, Mushunguti, Bulambika, Chigoma et Mubuku dans le territoire de Kalehe. Ces enfants qui ont été libérés par ces miliciens sont restés dans la communauté pour entamer la réinsertion. Reportage à Bukavu de Rachel Kessembangou.
Ces enfants ont été sortis de ces groupes armés lors d'une mission de vérification de 326 présumés enfants associés aux forces et groupes armés effectuée du 27 au 31 janvier 2024 par la coordination provinciale du PDDRCS Sud Kivu, des agences de protection de l'enfant dont le BVS, Bureau du volontariat de l'enfance et de la santé et tous les autres partenaires dont la section protection de l'enfant de la MONUSCO et l'UNICEF. Sur 326 présumés,
c'était Rachel Kessembangou qui nous parlait de Bukavu. Allons maintenant dans la province du Haut-Katanga où la ministre provinciale du commerce tire la sonnette d'alarme. Un sucre de mauvaise qualité est actuellement vendu sur le marché local. Ce sucre brun dont l'emballage porte la marque de Energy for Life provient de la Zambie. Céline Kanyeba affirme que ce sucre qui n'est pas comestible est destiné plutôt à l'industrie. Un extrait de ce propos est sélectionné par Jean Ganduka Bongo.
Nous avons réuni tous les services qui sont concernés et à l'importation et au contrôle sur terrain et les autorités judiciaires pour que nous puissions nous porter main forte afin non seulement de mettre ce sucre hors commerce, mais aussi de poursuivre tous les opérateurs économiques qui s'exerce à cette pratique illégale. C'est un poison qu'on est en train de vendre à la population et on expose la vie de la population à une mort certaine. Ce sucre brun est en granules et l'on peut facilement voir que ce n'est pas la qualité du sucre que nous consommons de manière ordinaire. Il y a déjà du sucre saisi, nous continuons les opérations et nous avons les autorités judiciaires qui sont avec nous, qui vont poursuivre les infracteurs. Nous avons des partenaires tels que la FEC, les administrateurs des marchés, qui vont aussi nous aider à relayer l'information auprès de leurs membres afin que tous soient sensibilisés et qu'on puisse réussir la mise hors commerce de ce sucre et protéger ainsi la population.
Actualité internationale.
Au Soudan, les parties en conflit ont accepté aujourd'hui de se réunir en Suisse sous l'égide des Nations Unies pour discuter de la situation humanitaire qui prévaut dans leur pays. Dans un communiqué rendu public ce mercredi à Genève, les chefs des affaires humanitaires des Nations Unies disent attendre de savoir quand la rencontre aura lieu. Martin Griffith affirme avoir reçu déjà des réponses positives des deux côtés. Et puis un tribunal sud-africain a confirmé aujourd'hui l'interdiction faite aux dirigeants d'un parti d'opposition d'assister au discours prononcé cette semaine par le président Cyril Ramaphosa à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire après avoir été sanctionné pour avoir perturbé l'événement il y a un an. Au Sénégal, le gouvernement attend organiser l'élection présidentielle en ce mois de février, comme prévu au lieu de la retarder de 10 mois. Réaction hier soir de la CDAO au lendemain du vote du Parlement qui fixe la présidentielle au 15 décembre prochain.
L'invité.
Notre invité, c'est le commandant de la 22e région militaire. Le général Eddy Capen revient sur l'épidémie de choléra qui sévit au centre d'instruction de Moura dans la ville de Likassi et de la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone. Il s'entretient avec Jean Ganduka Bongo.
Général Eddy Capen, bonjour.
Bonjour.
Ben, la fois dernière, vous avez lancé un cri de détresse parce qu'à Moura, il y avait le cas de choléra qui était en train de terrasser les apprenants. En ce jour, qu'en est-il exactement?
D'abord, je commence par remercier votre radio parce qu'elle a fait écho de notre demande et de notre détresse. L'UNICEF est venu à notre secours spontanément. Elle a battu un travail de tue-tête, bien sûr sous le commandement de notre médecin chef, avec le médecin technicien de l'UNICEF. Ils font un travail énormément respectueux. À ce jour, je peux dire que le travail a été d'une telle importance que l'évolution de la maladie a été stoppée, particulièrement pour les cas de Moura. Il y a 72 heures, les effectifs de malades s'élèvent à exactement 144 qui sont contenus par les soins. Nous avons connu 14 décès depuis lors. On a sauvé énormément de malades qui sont rentrés dans le rang. C'est une occasion pour moi de remercier l'UNICEF et les efforts qu'ils ont consentis parce que ça nous a permis de sauver la vie de plusieurs hommes chez nous dans les centres d'instruction de Moura.
Depuis un certain temps, la ville de Lubumbashi a vu venir beaucoup de soldats. Il y en a qui estiment que depuis leur arrivée, il y a quand même un certain banditisme accru parce qu'il semble que ces militaires-là seraient incontrôlés. Qu'en dites-vous?
À mon avis, depuis que nous sommes à la tête de cette région militaire, nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir sécuriser tout le monde. Ceux qui connaissent la période d'avant notre avènement ici et depuis que nous sommes ici, je pense qu'ils sont tous, à la majorité, d'avis que les choses se sont améliorées dans le sens de garantir la sécurité et la paix pour tout le monde. Par rapport aux nouveaux soldats que vous avez pu voir à travers les villes ou les campagnes ici, vous comprenez que nous traversons une période sécuritaire très très difficile. Bon, la région du sud de notre pays est protégée par la 22e région militaire qui va de Tanganyika au Lualaba en passant par le Haut-Lomami et le Haut-Katanga, c'est très vaste. Nous avions besoin des effectifs pour pouvoir contrôler les éventualités. Mais les gens peut-être semblent voir un nouvel uniforme présent, ça effraie. Bon, ils crient à ce que la présence de militaires, psychologiquement, ça perturbe parfois certaines conduites de gens qui n'étaient pas habitués à voir les militaires. Quand on les voit en nombre, ce sont des citoyens aussi, ce sont des personnes. Ça fait peur, mais ils ne commettent pas des crimes. Vous dites que d'ici là, certains se sont mal comportés, que c'était pourquoi. Tout le monde, quand vous êtes nouveau dans un milieu, il faut connaître ces milieux. Nous avons placé ces soldats non pas en ville, ils sont gardés dans des conditions tout à fait spécifiquement militaires. Ils doivent être contrôlés par les chefs et nous suivons, moi-même, tous les jours je suis sur ça.
Il y a quand même une certaine circulation d'armes qui se retrouvent dans les mains inappropriées. Ces armes viendraient d'où et que faites-vous pour les récupérer?
Non, je ne crois pas qu'il y a des armes effectivement qui circulent dans les mains des personnes librement incontrôlées. Ça n'existe pas. Si vous en connaissez quelqu'un qui les porte, dites-le moi.
En fait, les bandits qui tirent chaque fois la nuit utilisent les armes. Je parle de ce type d'armes-là.
C'est pourquoi nous on ne dort pas pour traquer ces gens. Nous réfléchissons chaque jour. Ce sont des bandits, ce sont des criminels, ils sont intelligents. Ils vivent parmi la population qui les protège parfois. Parce que quand ils volent, ils vont aller dans la maison d'un citoyen pour partager les butins. Ça veut dire que la population, à quelques niveaux, est complice. Et en même temps, mon devoir, c'est de récupérer toutes ces armes. C'est de traquer tous ces bandits et de mettre la population à l'abri de l'insécurité, à l'abri des menaces et de toutes ces tracasseries. Comment je fais pour pouvoir lutter contre ça? J'ai commencé d'abord par donner l'ordre à tous les soldats que chacun de nous, en commençant par moi-même, mon arme doit être connue, il doit être identifié, répertorié avec les nombres de munitions et les types de calibres que je porte pour moi-même, pour mes gardes, pour mes adjoints et pour tout l'état-major. J'ai commencé d'ailleurs ce travail aujourd'hui. J'ai demandé à la Commission nationale chargée de contrôle des armes de petit calibre, particulièrement au sein de l'armée, qui a commencé le travail et j'ai remis mes armes à moi. D'abord comme commandant, le numéro 1 de la région militaire. Et donc tout le monde, général ou caporal, soldat ou je ne sais pas quel officier, tout le monde doit faire identifier son arme. De sorte à nous permettre à savoir si jamais on trouvait une arme dans la main d'un criminel, on va vérifier ça appartient à qui.
Général, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le commandant de la 22e région militaire, le général Eddy Kapende, a été interrogé à Lubumbashi par Jean Ganduka Bongo. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.